Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Lachowski.
Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. Prenez soin de vous. Prenons soin de nos soignants à qui nous ne dirons jamais assez merci. Merci à tous ceux et à toutes celles qui chaque jour accueillent, prennent en charge et accompagnent les patients atteints du coronavirus. Merci aux soignants, au personnel médical et paramédical, mais aussi à tous ceux qui assurent la continuité de nos vies confinées et bouleversées. Les employés des commerces, le personnel de nettoyage, de transport, facteurs, livreurs, chacun, chacune est essentiel. Il nous faudra nous en souvenir. Ce sont les plus humbles d'entre nous qui nous sauvent. Et puis merci aux chercheurs qui travaillent sans relâche et dans l'urgence pour comprendre de quoi est fait ce virus, cet ennemi invisible qui nous frappe partout et sans distinction. Merci à tous ceux qui recherchent et qui évaluent toutes les pistes de traitement possibles. Que peut-on espérer des essais cliniques actuellement en cours dans le monde entier? Nous faisons le point aujourd'hui dans Priorité Santé avec trois éminents chercheurs en direct avec nous par téléphone depuis leur laboratoire respectif. Le professeur Bruno Lina, virologue, membre du conseil scientifique sur le Covid-19, responsable du Centre national de référence des virus des infections respiratoires aux Hospices civils de Lyon, le professeur Éric Delaporte, chercheur à l'INSERM, infectiologue et clinicien, spécialiste en maladies infectieuses et émergentes pour l'IRD au Centre hospitalier universitaire de Montpellier, et le docteur Amadou Sall, virologue et directeur scientifique de l'Institut Pasteur à Dakar. Tous ont pris sur leur temps précieux pour répondre à nos interrogations, à vos questions, chers amis auditeurs et auditrices, celles que vous nous posez, que vous nous postez sur notre page Facebook. Bienvenue donc pour faire ensemble le point sur toutes ces recherches collaboratives en cours, recherches dont nous avons tant besoin aujourd'hui partout sur la planète.
Priorité Santé sur RFI.
Bonjour professeur Bruno Lina.
Bonjour.
Merci d'abord de nous accorder un peu de votre temps précieux pour nous informer. Vous êtes virologue, responsable du Centre national de référence des virus des infections respiratoires aux Hospices civils de Lyon. Vous dirigez, Bruno Lina, l'unité de recherche Virpat Grippe au Centre international de recherche en infectiologie et vous êtes membre du conseil scientifique sur le Covid-19. C'est d'ailleurs pour cela que vous devrez nous quitter avant la fin de cette émission. Mais c'est aussi à ce titre que vous avez, Bruno Lina, une vision d'ensemble sur les recherches et sur les essais cliniques en cours menés de par le monde et tout particulièrement sur tous ces essais Discovery coordonnés par l'INSERM et dont certains ont démarré déjà dans votre hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. Alors combien d'essais cliniques sont en cours et lesquels vous semblent les plus prometteurs, Bruno Lina ?
Alors, il y a de très très nombreux essais cliniques en cours, à la fois en France et à l'étranger. Par exemple, si on fait rien que le bilan de ce qui a été fait en Chine dans les deux premiers mois, il y a 92 essais cliniques qui ont été réalisés. Donc, on voit qu'il y a un effort considérable qui est fait pour essayer de comprendre la maladie et en même temps essayer de trouver des traitements qui pourraient réduire à la fois les symptômes et bien évidemment la mortalité de ce virus. Alors, pour ce qui concerne Discovery, l'essai a commencé maintenant il y a un peu plus de deux semaines, bientôt trois semaines. C'est vraiment un essai qui fonctionne très bien puisqu'on a pratiquement 600 inclusions, ce qui est extrêmement rapide pour ce type d'essai clinique. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs bras, c'est-à-dire il y a plusieurs tests qui sont faits sur des médicaments. Il y a celui avec le remdesivir, qui est un antiviral spécifique qui doit bloquer l'entrée du virus et la réplication du virus dans la cellule, qui a vraiment été développé spécifiquement pour ce virus et testé assez rapidement. Et puis il y a des produits que l'on a réutilisés utilisés, qui sont le lopinavir et ritonavir, qui s'appelle le Caletra, qui est un anti-VIH, il y a l'hydroxychloroquine, et puis il y a une combinaison entre le produit anti-VIH et de l'interféron. Et on voit que on va avoir probablement d'ici une dizaine de jours des premiers résultats sur l'ensemble de ces bras pour comprendre s'il y a déjà quelque chose qui se dessine. Est-ce qu'on voit que certains patients traités avec tel ou tel bras présentent une évolution plus favorable que d'autres. Donc ça, c'est je pense qu'on a besoin encore d'une dizaine de jours pour qu'on puisse avoir des premières données que l'on pourra communiquer. Et par là même, passer éventuellement un message d'espoir. Mais à côté de l'essai de Discovery, il y a d'autres essais cliniques qui tournent autour de ce qu'on appelle l'immunothérapie et la réponse, le contrôle de la réponse inflammatoire.
C'est-à-dire la manière dont le corps réagit à ce virus, et c'est ça ?
Exactement. C'est-à-dire que ce dont on s'est rendu compte, c'est que dans cette maladie, il y a ce qu'on appelle une cascade de cytokines, un orage cytokinique. Les cytokines, c'est les protéines de l'inflammation et qui sont là pour nous défendre, mais quand elles sont produites en trop grande quantité et qu'il y a un contrôle qui ne se fait plus, eh bien finalement ça devient agressif pour notre organisme. Et donc on essaye de moduler cette réponse de façon à ce qu'elle garde son activité pour lutter contre le virus, mais qu'elle perde sa dangerosité vis-à-vis de notre organisme. Et il y a des premiers résultats qui devraient sortir dans 2 ou 3 jours sur des anti interleukine pour les formes graves qui pourraient être intéressantes. Et puis il y a un autre pan de ce qu'on appelle l'immunothérapie qui est aussi en cours d'évaluation, qui est l'utilisation du plasma des patients convalescents. Vous savez, quand vous êtes guéri, c'est parce que vous avez développé des anticorps. Et ces anticorps, eh bien, on peut les prendre chez un individu pour les transférer à quelqu'un qui a besoin, qui les développe pas bien. Donc la façon la plus simple de le faire, mais qui est pas si simple que ça, c'est de prendre du plasma, c'est-à-dire du sang de quelqu'un qui est guéri, et on le purifie, on le transmet à quelqu'un qui a besoin de plasma et d'anticorps pour guérir. Donc ça peut aider à la guérison. Et puis l'autre chose, c'est de la recherche spécifique pour trouver ces immunoglobulines, les identifier, et puis être après en capacité de les synthétiser pour pouvoir faire de l'immunothérapie vraie avec des anticorps monoclonaux. Donc voilà, il y a un champ de recherche extrêmement riche. Il faut aussi bien comprendre, parce que souvent les gens disent « mais vous n'allez pas assez vite ». Mais l'épidémie, au bout du compte, elle a commencé il y a quoi ? Il y a 2 mois. Et à l'échelle planétaire, même encore moins que ça. Et on voit qu'on est déjà en train d'évaluer des médicaments et des traitements. Donc on va certes moins vite que le virus, mais on va quand même bigrement vite.
Oui, et c'est rare pour la recherche de devoir travailler autant dans l'urgence que ça. Je crois qu'on n'a jamais vu une recherche aussi rapide. Et comme vous le dites, il y a donc plein de pistes, donc ne désespérons surtout pas. Bonjour professeur Éric Delaporte.
Oui, bonjour.
Bonjour Éric Delaporte, merci d'être en direct depuis Montpellier. Vous êtes chercheur à l'INSERM et clinicien spécialiste en maladies infectieuses et émergentes, directeur de l'unité mixte internationale de recherche trans-VIH-MI de l'IRD, internationalement reconnu pour vos recherches et vos découvertes sur le VIH-SIDA, sur le virus Ebola. Vous êtes également, Éric Delaporte, membre du comité scientifique Covid-19 de l'IRD, en partenaire avec vos collègues du Sud. Alors on vient d'entendre le professeur Bruno Lina nous expliquer toutes ces formidables pistes de recherche. Alors ça ne va jamais assez vite, mais ça va bien plus vite que le temps habituel de la recherche. En ce qui concerne le Sud en général et l'Afrique en particulier sur laquelle vous travaillez, est-ce qu'il y a des pistes à privilégier dans les recherches, dans les essais cliniques, parmi toutes les pistes que vient de développer le professeur Bruno Lina, Éric Delaporte ?
Il n'y a pas vraiment de piste spécifique à l'Afrique. Le virus, il est universel.
Bien
sûr. Et la lutte est universelle. Et donc tout ce qui est recherche de l'Asie, du Nord est au bénéfice également du Sud. Par contre, il va y avoir des spécificités sans doute au niveau de la prise en charge et parfois de l'approche. C'est-à-dire que à côté du traitement spécifique, il va y avoir tout ce qui est également autour de la prise en charge des patients. Et donc, il y a des recherches très importantes sur la piste virale. Et comme l'a dit Bruno Lina, c'est à la fois une maladie virale, mais c'est également une maladie immunitaire. Et donc tout ce qui va être recherche pour contrôler la réponse immune désordonnée qui crée des lésions au niveau du poumon. Et alors il y a des choses très intéressantes également qui peuvent être directement mises en application au sud. Par exemple, récemment, il y a une étude qui montre que l'utilisation des corticoïdes dans les formes très graves pourrait diminuer la mortalité. Donc il y a également des recherches autour de la prise en charge qui peuvent être directement adaptées au contexte du Sud. Un élément très important également, oui, peut-être encore plus au Nord qu'au Sud, ça va être la disponibilité des médicaments. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va avoir trouvé un prototype traitement, c'est de faire en sorte qu'il soit disponible et qu'il puisse être efficace. D'où le succès de l'hydroxychloroquine, par exemple, parce que pour la première fois, c'était un médicament qui était un espoir, qui reste aujourd'hui un espoir, hein, puisqu'on n'a pas d'éléments totalement objectifs pour dire si ça marche ou si ça pas, mais il y a cette force d'être disponible. De même, l'antirétroviral dont parlait Bruno Lina, l'opinavir et tenavir, qui est commercialisé sous le nom du Caletra, il y a encore beaucoup de patients qui sont sous cette molécule antirétrovirale. Donc si jamais ces pistes fonctionnaient, ça serait assez extraordinaire d'avoir en temps réel un médicament qui soit en même temps disponible pour les patients du Sud.
Oui, on le voit, il y a plein de pistes et il y a plein de spécificités aussi, et on le comprend bien, les recherches elles s'intéressent à la fois à comprendre comment fonctionne le virus, à essayer de nous protéger de ce virus ou de nous traiter contre ce virus, mais aussi contre les complications que ça peut entraîner, donc à renforcer notre système immunitaire. Bonjour docteur Amadou Sall.
Bonjour Caroline.
Merci d'avoir pris sur votre temps, vous aussi, pour être en ligne par téléphone avec nous depuis Dakar. Alors, vous êtes virologue, directeur de l'Institut Pasteur de Dakar, où des essais cliniques vont bientôt commencer. Alors, lesquels et comment, sur quelle piste vous êtes, puisqu'on est effectivement dans la recherche, on est aussi dans le début de la pandémie qui atteint le continent et notamment Dakar. Où en êtes-vous sur place à Dakar? Qu'est-ce qui s'y joue comme recherche aujourd'hui?
Voilà, dans le domaine de la recherche, plus spécifiquement celui que vous avez abordé, des recherches cliniques, oui, comme l'épidémie a commencé depuis un peu plus d'un mois, nous sommes dans la phase de mise en place de ces recherches au niveau clinique qui vont commencer très prochainement sur une réflexion sur l'hydroxychloroquine et comment cela peut justement bénéficier à nos patients. Ça, c'est le stade où on en est, donc nous allons démarrer les inclusions et travailler en collaboration avec le professeur Seydi de l'hôpital Fann, ou qui est responsable de la prise en charge au niveau national, au niveau du Sénégal. Cependant, ce qui est important, c'est qu'au-delà de la recherche clinique pour les traitements, il est important justement d'avoir une réflexion, une évaluation de la présentation des cas cliniques dans le domaine africain, qui est justement un élément important pour voir si il y a des spécificités, s'il y a une présentation différente de ce qu'on peut voir, et cela est un domaine important dans lequel nous travaillons à voir quelle est la présentation d'un point de vue immunologique, d'un point de vue de l'expression de la maladie, est-ce qu'il y aurait des spécificités? Et ça, c'est un domaine qui est important puisqu'il va conditionner des fois la prise en charge et peut-être mettre en place des approches qui seraient plus spécifiques de notre contexte. Au-delà de la recherche clinique, il faut dire que c'est important aussi d'évoquer les autres éléments de la recherche, et de ce point de vue-là, je voudrais évoquer trois domaines dans lesquels l'Institut Pasteur est plus actif, qu'il s'agisse du diagnostic, parce que dans la situation dans laquelle on est, nous essayons de juguler rapidement cette épidémie, et tout ce qui concerne la mise au point d'outils de diagnostic rapide ou de détection très rapide avec un certain nombre de méthodes moléculaires. C'est une piste sur laquelle nous sommes actifs. Le deuxième élément, c'est de suivre de façon régulière comment le virus se comporte. Est-ce qu'il change? Est-ce qu'il évolue? Et ça, c'est un domaine très actif parce que c'est important pour comprendre le suivi des chaînes de transmission, mais aussi éventuellement, dans le cas où il changerait, de s'adapter en termes d'outils diagnostiques ou justement d'une approche pour mieux le prendre en charge. Et le dernier domaine qui me paraît aussi extrêmement important dans notre contexte, c'est vraiment de comprendre la dynamique de l'épidémie et de ce point de vue-là, de suivre par les approches de modélisation et de bâtir des scénarios qui vont, en fonction du contexte, permettre d'anticiper sur ce que doivent être les stratégies de prise en charge de cette épidémie et de son contrôle. Donc, je pense qu'il est important, en fonction du stade où est l'épidémie, et particulièrement le stade où est l'épidémie en Afrique et au Sénégal, d'avoir des recherches qui sont en lien direct avec les préoccupations, même si il faut bien évidemment s'arrimer à la dynamique mondiale et parfois, chaque fois que c'est possible, que ce soit dans le domaine du traitement ou dans d'autres domaines, ce travail se fait en collaboration avec nos collègues à travers le monde et dans le Nord.
Collaboration, spécificité, universalité. On continue de s'interroger sur la recherche autour du coronavirus.
Priorité santé sur RFI.
Merci d'être à l'écoute de Priorité Santé, chers amis auditeurs et auditrices. Nous faisons donc le point sur la recherche, sur les différentes approches, sur les similarités qui se font en collaboration dans le monde entier. Nous sommes en direct par téléphone avec le professeur Bruno Lina à Lyon, Éric Delaporte à Montpellier et avec le docteur Amadou Sall, directeur de l'Institut Pasteur à Dakar. Alors on a bien compris, c'est complexe la recherche et il s'agit, selon les pays, selon le moment où en est l'épidémie, d'être dans la détection, dans le traitement. Mais j'ai une question toute simple finalement. Pourquoi est-ce que ce virus est si violent, Bruno Lina ?
Alors ça, c'est une bonne question. On l'observe plus qu'on ne le comprend pour l'instant. Parce que là, comme ce qu'on vous explique comme recherche, c'est la recherche du temps court, c'est-à-dire la recherche qui est nécessaire immédiatement pour contrôler et juguler l'épidémie et essayer d'en réduire son impact au maximum. Donc on voit que les éléments de réponse qu'on essaye d'avoir, c'est comment les virus se comportent, comment est-ce qu'ils diffusent, quelles sont les mesures que l'on peut prendre pour freiner sa diffusion et en parallèle commencer à apporter des éléments de traitement et éventuellement de vaccinologie. Donc ça, c'est la recherche immédiate qui est très importante. Mmh. Après, on a une recherche, je dirais, de temps intermédiaire et de temps long qui va prendre plus de temps. Et justement, la question que vous posez, qui est très pertinente, c'est pourquoi est-ce que ce virus, qui fait partie d'un groupe de virus dont certains sont particulièrement bénins, on pense aux autres coronavirus humains, il en existe 4 qui infectent l'homme et pour lequel finalement on a l'habitude de vivre avec. Et puis d'autres qui sont beaucoup plus dangereux, qui sont le SARS et le MERS, mais qui n'ont pas cette capacité de transmission qu'a ce nouveau coronavirus. Eh bien, arriver à comprendre les similitudes et les différentes, c'est des choses qui sont très importantes et c'est des choses qui vont prendre du temps. Alors, on a commencé à travailler dessus, on essaye de comprendre les interactions entre le virus et la cellule, on essaye de comprendre si finalement c'est pas un désordre du contrôle de la réponse immunitaire qui fait que ce virus provoque autant de formes graves. On essaye de comprendre aussi pourquoi est-ce que certains groupes de patients sont plus infectés ou plus infectés que d'autres, pourquoi certains ont malheureusement tendance à faire des formes plus graves que d'autres. On a besoin de comprendre la biologie cellulaire de la cellule infectée. Est-ce que le récepteur que le virus utilise peut être exprimé de façon différente en fonction des individus? Vous voyez, il y a énormément de questions qu'on se pose, malheureusement, on ne peut pas trouver toutes les réponses tout de suite.
C'est pas le temps de la recherche, absolument. Il y a effectivement beaucoup de questions de nos auditeurs, hein. Sur les réseaux sociaux, je vous en cite quelques-uns. Il y a par exemple Ibrahima en Gambie, il nous demande si le virus pourrait muter et devenir encore plus grave, encore plus contagieux.
Alors, c'est toujours l'idée qu'on a, c'est-à-dire que le virus peut-il muter ? La réponse est oui, mais est-ce que cette mutation va faire plus de gravité ? La réponse n'est pas forcément, parce qu'un virus peut muter en devenant moins dangereux, c'est aussi une possibilité.
Donc le pire n'est pas certain.
Mais non, pas du tout. Je dirais que le pire, on l'a déjà quand même beaucoup devant nous. Hein. Mmh. Donc on espère que les choses il est possible que ce virus évolue par mutation, par délétion, etc. Mais que cette évolution, au bout du compte, elle conduise à une perte, une réduction de son pouvoir pathogène.
Donc,
tout est possible.
D'autres questions, alors soulevées cette fois-ci par Rodrigue à Douala au Cameroun, puisque vous parlez de la différence entre les gens, comment expliquer la proportion, nous demande-t-il, du taux de mortalité chez les jeunes, alors qu'il est dit que ce virus serait plutôt mortel pour des personnes âgées? Oui. Que peut-on en dire?
Ce que l'on a observé, c'est qu'effectivement, au-delà de 70 ans, le taux de mortalité est assez élevé. Ça peut être jusqu'à 10 à 15%, ce qui est considérable. Mais il y a une décroissance très rapide dès qu'on est en dessous de 70 ans. Et on voit que, par exemple, les moins de 30 ans, le risque de faire une infection qui conduit au décès est extrêmement faible. Il n'est pas nul, hein, mais il est extrêmement faible en proportion. Donc si vous dessinez en quelque sorte une pyramide qui vous dit, la pyramide c'est l'ensemble des personnes infectées. Seul le sommet de la pyramide correspond à ceux qui vont mourir de cette infection. Et ensuite, en dessous, vous avez ceux qui vont être hospitalisés. Vous voyez, quand on descend graduellement, on voit la taille grandir. Et la base, c'est les gens qui sont infectés qui vont faire des formes les plus simples. Et bien, le sommet de la pyramide chez les plus de 30 ans, il est tout petit, il est infinitésimal, alors que chez les plus de 70 ans, il représente, comme je vous le disais, presque 15%. Donc, et il y a un gradient, progressivement, ça décroît, mais ça décroît très vite, dès qu'on a moins de 60 ans, où le risque est de 0,0 quelque chose. Donc, c'est...
Pour poursuivre dans cette question des lueurs d'espoir, je ne sais pas si c'est à vous, Bruno Luna, Éric Delaporte ou au docteur Amadou Sall à Dakar qu'il faut poser la question, mais est-ce que ça pourrait être ça, un espoir, une lueur, un atout pour le continent africain, population très jeune? Est-ce que ça pourrait être un atout et est-ce qu'on prend ça en compte précisément dans les recherches en cours aujourd'hui? Éric Delaporte, peut-être?
Écoutez, c'est une hypothèse, c'est une interrogation, et Amadou Sall parlait justement des spécificités africaines, et Bruno Lina également. Pyramide des âges, par exemple en Guinée, les plus de 65 ans, ça représente 3% de la population. En France, c'est peut-être 25 à 30%. Donc, la population, malheureusement cible pour les formes les plus graves, n'est pas la même. Et donc, ne serait-ce qu'au niveau de proportion de formes graves, je dis en proportion, en nombre absolu, ça va faire quand même beaucoup de personnes qui vont prendre en charge. Donc ça, il faut pas minimiser cet aspect-là. Par contre, effectivement, une population extraordinairement beaucoup plus jeune, avec potentiellement une diffusion beaucoup plus rapide, des formes, comme l'a dit Bruno Lina, c'est qu'il y a très très peu de formes graves chez les enfants. Et ça, quels que soient les continents, ça a été observé. Ça reste l'exception, la forme grave chez l'enfant, à la différence de la personne âgée. Donc une diffusion rapide, peut-être une immunité collective en interrogation, je m'avance trop en disant ça, parce que on n'a pas assez d'éléments pour le dire, mais c'est vrai que les spécificités de la dynamique de l'infection dans le contexte africain pourraient être bien différentes, Amadou Sall l'a souligné, et ça c'est une piste également, pas forcément d'espoir, mais d'interrogation, parce que à l'inverse, il y a des enfants malnutris qui pourraient être plus sensibles à l'infection. Il y a le problème des autres infections, des autres comorbidités. L'infection par le VIH, par exemple, si on n'est pas sous traitement, on va être plus susceptible aux infections, et donc au coronavirus, bien évidemment. Donc, le bon côté d'un côté va être peut-être contrebalancé par d'autres problèmes d'un autre côté. Mais vous avez raison, cette pyramide des âges peut être un élément qui fasse que les spécificités, l'impact de l'infection sur le contexte, dans le contexte africain, ne soit pas superposable à ce qu'on observe en France, bien évidemment.
Docteur Amadou Sall, vous voulez réagir ?
Oui, en fait, juste pour dire deux ou trois points qui me paraissent importants dans la question. Tout d'abord, par rapport à le premier élément, est de dire que justement, parce qu'on a une situation en Afrique et que l'épidémie commence dans certains pays depuis pas longtemps, on a besoin justement de faire des observations pour regarder qu'est-ce que cela a de différent. Mm-hmm. C'est le premier point, parce que tout n'est pas connu à ce stade-là. Le deuxième élément, c'est que un des facteurs de gravité, ça peut dépendre de la maladie, ce qu'on appelle la comorbidité, les autres maladies que les gens ont au moment où ils font la maladie. Est-ce qu'ils ont d'autres problèmes, que ce soit du diabète, que ce soit de l'hypertension artérielle ou que ce soit des problèmes respiratoires et qui existent, cela peut avoir un impact de ce point de vue-là. Et donc c'est pour ça que de ce point de vue-là, on peut voir qu'il y aurait des différences en fonction des pays et de la prévalence et de la présence de ces comorbidités dans la population. Et ça, c'est le deuxième élément qui me paraît important. Mmh. Et la troisième chose qui est importante, celle que vous avez soulignée du point de vue de la structure démographique, l'Afrique a une structure qui est différente de celle qui existe dans d'autres endroits et qui peut présenter un avantage dans le contexte de ce qu'on voit et l'on connaît aujourd'hui pour l'épidémie, une mortalité beaucoup plus faible dans les populations qui sont beaucoup plus jeunes. Mais comme le disait Bruno, cela n'est pas nul, et donc en fonction de ces contextes, tout cela doit être suivi avec beaucoup de rigueur, d'où l'importance de faire ces observations de manière à avoir des stratégies qui permettent une adaptation et qui soient
vraiment spécifique du contexte.
D'où l'importance d'avoir une telle collaboration entre vous tous chercheurs. Vous l'avez dit, hein, Bruno Lina, depuis les premiers chercheurs en Chine, jusque aujourd'hui, ce qui se passe dans les pays du Sud. Bruno Lina, je sais que vous allez devoir nous quitter parce que vous avez évidemment beaucoup de choses à faire et je vous remercie beaucoup d'avoir passé quelques instants avec nous pour nous informer. Est-ce que vous auriez, avant de nous quitter, on a une petite surprise pour vous, mais est-ce que vous auriez un message peut-être à adresser à nos auditeurs qui vous écoutent partout dans le monde ?
Oh, un message, oui, bien évidemment, c'est de dire que cette épreuve qu'on est en train de passer, elle va se terminer à un moment donné. Et il faut impérativement qu'elle se termine du mieux possible. Et ce qui est très important à comprendre, c'est qu'en fait, c'est une lutte collective. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se reposer sur uniquement ce que les autres vont faire. Mmh. Individuellement, chacun d'entre nous, nous avons quelque chose à faire pour lutter contre cette épidémie, c'est de bloquer et de tout faire pour que ce virus ne soit pas transmis. Et grâce à cette aide, on gagne du temps et derrière, ça nous permettra d'avoir des moyens pour mieux, cette fois-ci, traiter et prendre en charge les patients. La connaissance qu'on accumule au fil du temps, finalement, va permettre de sauver des vies. Donc, des tas de petites initiatives individuelles qui permettent de freiner la diffusion de ce virus, eh bien, sont des choses qui, au bout du compte, auront un impact collectif. Et ça, c'est vraiment cette solidarité mutuelle que l'on doit avoir pour protéger les plus fragiles, c'est le plus important pour l'instant.
Merci infiniment, professeur Bruno Lina. Alors, je sais que votre temps est compté. On vous laisse donc poursuivre vos travaux, vos recherches à Lyon. Notre antenne vous est bien sûr toujours ouverte. Prenez soin de vous, prenez soin de nous. Cher professeur Lina, on vous dédicace ce morceau, une petite pépite dénichée sur la radio suisse romande. C'est Narcisse qui slame, il soigne sur RFI.
Tandis que nous chantons certains soirs au balcon et que ceux qui, comme moi, ne savent pas chanter, et c'est aussi parfois d'enchanter sans chanter pour que d'autres nous rejoignent, eux, ils soignent. Et tandis qu'on dort tant qu'on n'en dort même plus, qu'on lit pour passer le temps la peste de Camus, tandis que nos enfants coincés à la maison nous font prendre fermement la bonne résolution qu'à la fin du printemps, on fera sans façon à tous les enseignants un bisou sur le front, parce que l'éducation par papa et maman, c'est une sacrée montagne. Eux, ils soignent. Tandis que même passer dans des rues sans passant fait partie du passé. Tandis qu'on n'a pas su comment éviter ça, ni comment s'en passer, qu'on n'a pas vu les signes, eux, ils soignent. Et tandis qu'on se plaint des lacunes de Pékin, de la bourse en piqué, des copes sans PQ, des journées sans copains, sans sorties en campagne, sans soirées au champagne, eux, ils soignent. Tandis que la nature prend enfin du bon temps, un printemps dans le printemps, sans avion, sans voiture. Tandis qu'on se confine et qu'on se déconfie, quand la vieille voisine s'égosille et confie qu'il y a des confinés qui ignorent les consignes. Eux, ils soignent. Ils soignent, ils suent, ils saignent, ils souffrent, subissent, supportent, suffoquent, mais sans cesse ils soignent. Et grâce à eux, au final, on gagne.
Et oui, grâce à eux, au final, on gagne. Eux, ils soignent, ils méritent nos applaudissements. Slam signé Narcisse sur RFI. Ça fait du bien par où ça passe. Merci d'être à l'écoute de Priorité Santé. Chers amis auditeurs et auditrices, nous continuons de faire le point sur la recherche, sur les différents essais cliniques en cours dans le monde, avec le docteur Amadou Sall, directeur de l'Institut Pasteur à Dakar, avec le professeur Éric Delaporte, chercheur INSERM, clinicien au CHU de Montpellier. Éric Delaporte, vous avez contribué à déterminer l'origine du VIH-SIDA, travailler sur le virus Ebola. Est-ce qu'on peut répondre à la question d'un de nos auditeurs, Fortino, qui nous écrit depuis N'Djamena au Tchad, sur l'origine de ce virus et aussi sur les médecines traditionnelles. Est-ce qu'elle pourrait nous apprendre là-dessus ?
Alors, c'est deux questions bien différentes.
C'est vrai.
Alors, donc, sur l'origine. Sur l'origine, on a des pistes. Bien sûr, importantes, hein, c'est la chauve-souris, puisque chez la chauve-souris asiatique, autour de la région de Wuhan, on a trouvé une prévalence d'un virus qui est proche à 96%, donc qui est quasiment identique, mais qui n'est pas exactement le virus qu'on retrouve chez l'homme. Donc là, c'est déjà une vraie question. Il manque des éléments pour que ça soit exactement le même virus, où est-ce que ces éléments sont point d'interrogation. Il y a eu la piste du pangolin, qui a été relancée récemment dans un article de Nature. Il y a des pangolins qui ont été saisis au niveau de la frontière avec la Malaisie. Chez pangolins, on a trouvé des virus qui étaient très proches également du SARS-2, le virus qui donne le Covid, avec peut-être une porte d'entrée présente sur ces virus de pangolins. Cette porte d'entrée aurait pu se recombiner avec le virus de la chauve-souris et faire que le virus soit devenu virulent chez l'homme. Ça, c'est l'origine. Point d'interrogation, parce qu'on a encore des éléments de traçabilité pour savoir si c'est vraiment ça. Mais à côté de l'origine, il y a l'origine de l'épidémie. Pourquoi ensuite l'épidémie va flamber? Et c'est deux choses très importantes, parce que des passages d'un virus à l'homme, soit directement, soit indirectement, par un autre intermédiaire, un animal intermédiaire, c'est très fréquent. Ça a été... Mais ensuite, c'est pas pour autant que ça va faire une épidémie. Pour que ça fasse une épidémie, eh bien, c'est tous les éléments du monde moderne qu'on sait tous, c'est-à-dire l'urbanisation, les mouvements de population, la déforestation qui fait qu'on est en contact avec la faune sauvage, etc. Donc, il y a des éléments qui vont faire que ça va exploser à un moment. Et il y a des éléments qui font que peut-être qu'il y a un siècle, une telle infection, ça restait au fin fond d'un village, ça donnait une mortalité ou même pas de mortalité, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un virus qui, dans 80% des cas, même plus, reste asymptomatique. Donc peut-être un passage sans lendemain qui reste et sans cas secondaire, c'est-à-dire sans infection d'autres personnes, parce que la communauté restait isolée au fond du village.
Oui, finalement, donc, vous avez des en tant que chercheur... Des pistes d'interrogation qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres. Finalement, vous dites, mais pourquoi c'est si virulent? Pourquoi est-ce que ça se transmet aussi facilement entre humains? Finalement, ce virus, vous dites aussi qu'il aurait pu passer totalement inaperçu. C'est une conjonction de circonstances terribles qui font cette pandémie, oui, cette flambée aujourd'hui.
Exactement, comme l'histoire du VIH, c'est l'histoire de conjonction incroyable du monde moderne qui fait que l'épidémie est devenue mondiale en très peu de temps pour le Covid. Oui, c'est tout à fait ça.
Alors qu'aujourd'hui, plus de 4 milliards de personnes, soit plus de la moitié de la population mondiale est confinée à des degrés divers, on vous demande, chers amis auditeurs, on se demande comment faites-vous, chacun dans votre pays, comment partagez-vous, comment diffusez-vous tous les gestes barrières obligatoires, essentiels, solidaires. Alors merci de nous aider à les relayer dans toutes les langues du continent grâce à vos messages via WhatsApp. Je propose d'écouter tout de suite le message de Djiber qui nous écoute à N'Djamena, au Tchad.
Bonjour Caroline. Dans mon pays, le gouvernement de la République Tchad a pris des mesures comme partout ailleurs dans le monde pour, n'est-ce pas, demander aux gens de suivre attentivement les mesures qui sont prises, qui consistent aux gestes barrières. Donc à se laver les mains, porter son masque, ne pas se donner la main pour se saluer, avoir une distanciation d'à peu près d'un mètre. Et par la suite, d'autres mesures, notamment le couvre-feu a été décrété dans la province de N'Djamenaville, les deux provinces du Moyen Kébi, Est et Ouest, le Logone Occidental et le Logone Oriental, qui sont aussi des provinces, n'est-ce pas, mitoyennes à la République du Cameroun, de la RCA. Donc c'est en cela que le gouvernement redoute un petit peu le risque d'introduction de la maladie à travers ces frontières-là. Alors, de mon point de vue, je pense que toutes ces mesures-là sont bonnes, elles doivent être nécessairement appliquées, elles doivent être respectées pour que nous évitions vraiment cette maladie qui constitue pour nous une préoccupation majeure dans notre pays. Donc, en tant que Kanembu, j'ai dit tout simplement à mes parents, lako balayi ya baladi numayi nga timi fitina yi rawal cha inna li law inna li rajungu lumuda yin maza kendo nga timi awal ya lako ande bishende nchu dila musibar da sana ndi ayidu yu enda ahakume gulisari ngallara kalantayana wala harara dingaye dununu wassalamu alaikum.
Merci infiniment pour ce message, Djiber, depuis N'Djamena au Tchad. Merci pour ces recommandations en version originale Kanembu pour tous ceux qui le parlent au Tchad, bien sûr, mais aussi au Niger et au Nigeria. Sachez aussi, chers amis auditeurs et auditrices sur le continent, qu'à partir d'aujourd'hui, les antennes en langue africaine de RFI vont renforcer leur dispositif pour vous apporter informations et conseils pour lutter contre la propagation du Covid-19. À 8h et 12h en temps universel, dans chaque journal en mandinkan, une chronique dédiée à la maladie sera diffusée sur la quinzaine d'émetteurs en FM ouest-africain et sur les centaines de radios partenaires de RFI. Docteur Amadou Sall, c'est essentiel de communiquer dans toutes nos langues sur les précautions à prendre pour tenter de se protéger du Covid-19.
Absolument, c'est extrêmement important, parce que faut savoir que ce qui est important et ce que nous ont appris les épidémies, c'est que même s'il y a des solutions qui, du point de vue technique, permettent de résoudre les problèmes, c'est l'engagement communautaire qui va faire la différence. Comment la population s'approprie les mesures de prévention, comment elle s'approprie la stratégie que met en place un conseil scientifique, un gouvernement et des autorités. Et c'est pour ça qu'il est absolument essentiel que cette communication se fasse, mais encore plus essentiel que cette communication se fasse sur la base d'une stratégie qui part d'une écoute des populations pour bien comprendre comment elles perçoivent les choses et de faire des messages et d'avoir une approche qui permette leur engagement.
Oui,
jusqu'à présent, ce qui était souvent fait, c'est de faire des messages et aller vers les populations pour leur délivrer cela. Ce qui est de plus en plus important, c'est de bien les écouter, de comprendre leurs questions, leurs interrogations et de développer cette stratégie. Parce que sans l'engagement communautaire, cela ne peut pas marcher. Si je prends l'exemple du Sénégal, la stratégie a été d'être extrêmement agressif dans les mesures pour la distance sociale en éliminant les rassemblements et de s'assurer que cela est appliqué pour éviter une diffusion. Et cela a été bien pris par la population avec un accompagnement des leaders d'opinion et de toute l'autorité de l'État au niveau le plus élevé, avec le président de la République. Et cela a permis de créer une dynamique aujourd'hui qui permet que tout le monde est engagé. Tout le monde va dans cette dynamique et ça c'est extrêmement important. Et ça me permet juste de souligner aussi un rôle important dans ce volet communication pour parler aux populations. C'est le rôle de la presse. Au Sénégal, la presse joue un rôle extrêmement important dans cela, en diffusant beaucoup d'émissions dans les langues nationales, qui permet une bonne compréhension, mais aussi une bonne écoute, que les chercheurs, les décideurs comprennent les interrogations des populations et les prennent en charge.
Oui,
et c'est vraiment l'occasion de leur rendre hommage à la presse, à tous ces gens qui font ce travail-là, et au niveau de la communauté, parce que cela est essentiel dans cette lutte.
Et oui, il faut vraiment qu'on se comprenne, que les chercheurs comprennent aussi les questions du public. Moi, j'ai envie de vous faire passer celle de pas mal de nos auditeurs, notamment Sangia et puis Mustapha à Nouakchott en Mauritanie, qui aimeraient bien être éclairés sur ce principe de l'immunité collective, parce qu'on en a parlé, on a bien compris que c'est ce qu'on espère finalement, qu'il y ait une forme d'immunité collective. Alors comment est-ce qu'on peut l'atteindre? Sangia nous dit, en se référant même au cas du SRAS, la fin de l'épidémie, si on y pense, elle se finira quand? Comment faire dans les pays pauvres pour tenir jusque-là? Qu'est-ce que c'est que l'immunité collective et comment l'atteindre?
L'immunité collective est en fait le fait que quand une proportion importante de la population, on va dire souvent le seuil noté de 80%, est immunisée contre une maladie, cela protège le reste de la population. On n'aura pas, parce que chaque fois que l'agent pathogène va essayer de se déplacer pour infecter justement une personne, elle aura plus de chances d'être arrêtée que d'avoir une personne qui est susceptible. Et c'est de ce point de vue-là que vous voyez qu'il y a des démarches de vaccination qui se fait dans le cadre du programme élargi de vaccination ou dans le cadre des épidémies, dans le cadre de campagne de masse, parce que on essaye de bâtir cette immunité de groupe, que certains appellent une immunité de troupeau ou collective, qui permet justement de protéger la majorité des gens en s'attaquant à une majorité de la population qui développe une immunité. Et de ce point de vue-là, cela est bien évidemment toute l'approche et la réflexion sur le travail qui est en train d'être fait dans les vaccins, qui justement est un moyen de créer cette immunité collective. Et c'est en ça que c'est vachement important, dans le cadre de cette épidémie, de mieux comprendre est-ce que les gens sont protégés une fois qu'ils ont fait la maladie, est-ce que ça, quand ça atteint une certaine proportion, nous pouvons avoir justement une protection collective.
Oui, justement, on a d'autres questions d'auditeurs en ce sens. On sait quand même qu'avec ce virus, une fois qu'on l'a eu, on est protégé, au moins le temps de cette épidémie-là, professeur Delaporte ?
Alors, la réponse est clairement oui, même s'il y a des cas qui sont décrits de réinfestation, ça demande à être bien analysé, mais la réponse est globalement oui. D'ailleurs, c'est pour ça que la recherche vaccinale semble aller très vite, c'est parce que on fait des anticorps et que ces anticorps nous protègent de l'infection.
Vous y croyez, enfin, au vaccin? Je veux dire, je me demandais dans cette émission si on en parlait ou si c'était pas trop loin, parce que pour faire un vaccin, il faut du temps. Vous, chercheurs, allez plus vite que jamais, mais là, on peut pas aller plus vite que la machine.
Alors, Moi, personnellement, je suis pas directement impliqué dans la recherche vaccinale, mais on voit que les prototypes vaccins sont nombreux, qu'on ne part pas de zéro, parce qu'il y a déjà eu la recherche sur le SARS-1.
Bien sûr.
Donc, encore une fois, c'était très important. Il y a beaucoup de laboratoires, à la fois privés et de la recherche académique, qui sont sur la recherche vaccinale, avec des essais de phase 2, c'est-à-dire des pré-études chez l'homme qui ont même commencé. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas tabler sur la réponse vaccinale avant, je dirais, pour être modérément optimiste, pas avant un an, voire 18 mois, pour que ça soit effectif au niveau des populations. Il va y avoir des études, des évaluations de ces vaccins bien avant, mais avant que ça soit définitivement opérationnel, ça, c'est pas avant 18 mois.
Nos auditeurs aussi nous parlent du BCG. On a parlé du BCG. Il y a notamment Harry Lou au Bénin, je le cite, qui dit depuis l'annonce du test d'un vaccin BCG en Afrique, les Africains ont commencé par avoir peur. Est-ce qu'un tel vaccin serait vraiment efficace? Est-ce qu'il faut se méfier d'avoir des souvenirs de campagnes de vaccination massives? Enfin, où on en est par rapport au BCG?
Le BCG est une piste ancienne. Hein. On sait que c'est avant tout un immunostimulant.
On revient à l'immunité, hein, oui.
En immunité, donc c'est un boost et c'est une stimulation non spécifique pour armer notre défense. Hein. Je simplifie, mais c'est ça l'idée, parce que on a vu que dans d'autres infections, ça avait été proposé sans forcément de preuves totalement probantes. En Europe, il y a un essai vaccinal BCG qui est un essai européen piloté par une équipe hollandaise et il y a des patients qui bénéficient du BCG en France comme essai thérapeutique. Donc bien sûr, ça sera une piste intéressante puisque le BCG peut être disponible, même si la disponibilité de ce vaccin n'est pas si évidente que ça finalement. Mais voilà, donc ça fait partie des pistes de réflexion. Donc là, c'est une stimulation indirecte et non pas un vaccin directement lié au virus coronavirus.
Parmi toutes ces pistes qu'on évoque, j'ai envie de revenir aussi vers vous, docteur Amadou Sall, puisque on a beaucoup parlé et on continue de parler aussi de l'hydroxychloroquine, qu'il y a des tests qui vont être faits, effectivement, des essais cliniques à Dakar. Quelle piste est-ce qu'il faudrait privilégier? Est-ce qu'il faut continuer comme ça, d'aller dans tous les sens? Parce qu'il y a des pistes là et des pistes qui pourraient être d'accès facile, notamment au sud, avec des médicaments qui sont disponibles.
Actuellement, donc, ce que j'en peux dire par rapport à l'hydroxychloroquine, comme l'évoquait tout à l'heure le professeur Bruno Lina, c'est une piste qui a montré des résultats encourageants et qu'il faut évaluer. Donc l'idée, c'est vraiment de voir qu'est-ce qu'il va sortir de cette évaluation avant d'aller sur une généralisation, une démarche. Et donc c'est de ce point de vue-là aujourd'hui qu'au niveau du Sénégal et à travers la prise en charge de ces malades qui sont infectés par ces patients qui sont infectés par le Covid-19, il y a une réflexion pour évaluer et faire ce point-là. Donc à ce stade, c'est ce qui est en train d'être fait.
Très important, ces évaluations. Hein. C'est vraiment, il faut en passer par là. On ne peut pas aller trop vite, même si on aimerait tous aller plus vite. C'est peut-être ce message-là qu'il faudrait faire passer, parce qu'en vous entendant, moi je me dis, il y a énormément de pistes, des pistes différentes hein, pour lutter contre ce virus, pour renforcer notre immunité, pour mieux comprendre comment il fonctionne. Si vous aviez un message à nous faire passer par rapport à cette recherche, Éric Delaporte, ce serait quoi?
Écoutez, oui, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la recherche. C'est-à-dire que c'est pour aller le plus vite possible pour sauver la majorité. Il y a des normes extraordinairement drastiques hein, pour protéger les personnes qui sont mises en place. C'est des normes universelles. Et c'est une garantie pour les patients, et comme le disait Amadou Sall, de pouvoir proposer le médicament le plus efficace, le plus rapidement. Et donc, comme les pistes sont vraiment très larges, encore une fois, il y a un gap entre l'efficacité d'une molécule, d'un traitement in vitro, c'est-à-dire en laboratoire, et qu'est-ce que ça va donner chez l'homme après. Et donc, on ne peut pas se baser sur des données parcellaires de laboratoire pour dire, ça y est, j'ai trouvé le médicament. Actuellement, sur le Covid, vous avez énormément de molécules qui sont suggérées comme avoir une action antivirale. Mais on va avoir des déceptions lorsqu'on va passer chez l'homme. Donc, c'est vrai qu'il faut absolument pouvoir évaluer, et puis pouvoir évaluer les candidats entre eux. Parce que même si l'un donne des pistes, donne un signal plutôt positif, peut-être que c'est pas le meilleur. Et donc il faut se battre pour avoir le meilleur possible. C'est pour ça qu'il faut avoir des traitements comparatifs qui, encore une fois, sont tellement encadrés qu'ils ne joueront jamais avec le standard le meilleur pour les patients.
Éric Delaporte, après nous avoir dit ça, on comprend bien qu'il faut prendre le temps de la recherche. En même temps, on a des questions de nos auditeurs qui nous disent « Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on ne va pas aussi vers d'autres pistes, vers des plans traditionnels ? Est-ce qu'il faut tout explorer ? Est-ce qu'on peut tout explorer ? Est-ce que quand on est chercheur comme vous, face à une pandémie pareille, on explore tout ? Même avec toutes les précautions qu'il faut prendre, hein, j'entends bien. »
Bah, écoutez, d'abord, la médecine traditionnelle, beaucoup de notre pharmacopée internationale est issue de la médecine traditionnelle, hein, donc c'est la connaissance, etc. Mais après, le principe actif qu'on va retrouver dans la plante doit être évalué, purifié, synthétisé, produit, etc., et validé. Et donc, il y a des entreprises, maintenant ça se fait, il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, il y a également des laboratoires qui vont tester énormément de molécules et qui recyclent, pour tester sur le Covid, plein de molécules anciennes pour voir si oui ou non elles ont une efficacité sur le Covid. Donc la recherche, elle n'est pas focalisée sur les prototypes que nous avons aujourd'hui directement pour être évalué chez les patients, mais également en amont, actuellement, il y a un criblage, ce qu'on appelle de molécules, c'est-à-dire on essaie de dépister tous les principes actifs susceptibles de tuer le virus, et ça fait appel à toutes les connaissances sans aucune barrière. Mais il y a des normes à respecter.
Qu'en pensez-vous, docteur Amadou Sall ? Évidemment qu'il y a des normes à respecter, hein, comme le dit le professeur Éric Delaporte.
Oui, ce que je pense, c'est qu'effectivement, il est extrêmement important d'explorer les pistes selon les spécialités et les compétences des gens. Mais le dernier point qu'évoquait Éric, c'est vraiment le respect des normes et des standards qui doivent être les mêmes partout. Deuxièmement, il est absolument important dans tout ça de privilégier l'intérêt du malade. Et c'est de ce point de vue-là qu'il faut avoir une approche éthique extrêmement rigoureuse pour ne pas justement aller au-delà d'une évaluation scientifique des programmes, d'aller vers un peu des initiatives hasardeuses. Le principe de tout ça, il faut avoir l'objectif très clair, c'est que partout, de lutter et de juguler cette épidémie en prenant les meilleurs outils qui soient scientifiquement, rigoureusement évalués et en respectant toutes les normes éthiques où que ça se passe dans le monde. Ça, c'est un message qui me paraît important.
Oui, merci de le rappeler, hein, docteur Amadou Sall. Et c'est vrai que cette question éthique, elle est au centre aussi d'une pandémie pareille, notamment parce que, on l'a dit aussi, l'accès aux soins n'est évidemment pas le même partout dans le monde, et que ça pose de sérieuses questions au Sud en général et sur le continent en particulier.
Oui, effectivement, l'accès aux soins n'est pas le même, et il faut savoir que ce qui est important aussi, c'est de contextualiser justement les outils, les approches par rapport aux situations qu'il y a dans chaque pays. Le fait de pouvoir, à mon sens, juguler cette épidémie repose vraiment sur une capacité d'adaptation, une capacité à réfléchir au contexte. C'est pas parce qu'un pays a une approche qui a marché dans un contexte culturel et dans un contexte infrastructurel qui y a donné des résultats qu'il faille le copier et le coller tel quel dans un autre pays. Donc cette dynamique implique justement que chaque pays, selon son contexte, réfléchisse à ses stratégies avec ses experts pour avoir la meilleure approche pour la résoudre. Et cette dynamique doit être importante, particulièrement en Afrique, et je félicite vraiment toute l'équipe, en tout cas, que je connais, avec laquelle je travaille au Sénégal. Il y a cette démarche rigoureuse où, systématiquement, il y a une évaluation d'une stratégie, il y a une réorientation qui se fait de façon régulière pour adapter à l'évolution de l'épidémie.
Merci infiniment à tous les deux, professeur Éric Delaporte. Merci infiniment, docteur Amadou Sall, d'avoir pris sur votre temps pour participer à notre émission, pour répondre aux questions de nos auditeurs. On compte tous sur vous, vous le savez, sur vos travaux, sur vos recherches, vos essais cliniques que vous menez en collaboration, donc Amadou Sall à l'Institut Pasteur de Dakar et professeur Éric Delaporte au CHU de Montpellier. Prenez soin de vous et merci. Priorité santé, c'est fini pour aujourd'hui. Notre priorité collective et individuelle reste la même. Prenons soin de nous en restant chez nous, en suivant les gestes barrières, lavons-nous les mains, respectons les distances. Portez-vous bien, chers amis auditeurs. Un grand merci à vous tous et toutes pour vos questions que vous continuez à nous poster sur notre page Facebook. Merci à toute l'équipe qui travaille, soit en confinement à la maison, soit ici à la radio, à Sétou Samaké, Ophélie Lassen, Tania Tikounas et Steven Elsley à la réalisation. Demain, nous nous intéresserons aux plus vulnérables d'entre nous, au nord comme au sud. Partage d'expériences et de soins pour tous, c'est à ce prix que nous nous en sortirons, collectivement et individuellement. Je vous salue et vous embrasse radiophoniquement, évidemment. Dans quelques instants, ce sera l'heure de votre journal sur la Radio Mondiale.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
7 milliards de voisins.